Bonjour à tous, les informations, Lauriane Avare. Trois pontes de l'ancien régime algérien écartées et arrêtées. D'abord, Saïd Bouteflika, l'ancien puissant conseiller et frère du président algérien déchu, Abdelaziz Bouteflika. Et puis, deux anciens patrons des services de renseignement. Les trois hommes ont été arrêtés hier, poussés vers la sortie par un quatrième acteur, le nouvel homme fort du pays. Vous allez nous le préciser tout de suite, Eric Biegala.
Saïd Bouteflika, tout comme les deux anciens patrons du renseignement, le général Médiane, alias Toufik, chef de la toute-puissante DRS pendant 25 ans, et l'ex-coordinateur des services de renseignement, Atman Tartag, alias Bachir, ont tous les trois un ennemi commun, le général Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'armée, devenu le nouvel homme fort du pays et qui tente manifestement d'asseoir son pouvoir. Gaïd Salah avait mis publiquement en cause ces dernières semaines Toufik, l'accusant de comploter contre l'Algérie mi-avril. Il lui avait même lancé un dernier avertissement. Quant au général Tartag, Bachir, c'était non seulement un proche d'Abdelaziz Bouteflika et de son frère Saïd, il avait même démissionné le même jour que l'ancien président, le 2 avril dernier, mais surtout, il se serait rapproché de Toufik pour tenter de mettre à l'écart justement le chef d'état-major Gaïd Salah. Un Ahmed Gaïd Salah qui tente depuis quelques semaines de se positionner comme quelqu'un se situant aux côtés du peuple algérien et appelle ainsi à une transition négociée entre un ancien et un nouveau régime dans lequel, bien entendu, il demeurerait à sa place.
Au Bénin, un corps a été retrouvé dans le parc national de la Pendjari, là où sont portés disparus les deux touristes français et leur guide. Pour le moment, rien n'indique qu'il s'agit d'une de ces trois personnes, indique une source diplomatique. Des identifications sont en cours. Une situation qui s'envenime à Gaza. Hier, 250 tirs de roquettes ont été tirés depuis l'enclave palestinienne. L'armée israélienne a riposté avec des frappes aériennes. On y revient à 9h. Déjà deux mois de mobilisation au Soudan, même si le président Omar al-Béchir est tombé, le sit-in des révolutionnaires se poursuit à Khartoum. Ils demandent au conseil militaire de transition de transférer le pouvoir aux civils. Beaucoup d'entre eux viennent du Darfour, cette région de l'ouest du Soudan, ravagée par un conflit depuis 2003. Martin Roux, vous avez rencontré ces Darfouriens qui réclament justice.
Face au quartier général de l'armée, sur cette place où le peuple révolutionnaire se rencontre, les Darfouriens se relaient pour faire entendre leur souffrance. Un acte inimaginable il y a encore quelques semaines. Dans la foule, Naguib Abdallah Hamed attend son tour.
J'ai perdu mon père, mes deux sœurs, mon oncle et tant d'autres que je ne peux même pas les compter. D'autres encore ont fui vers le Tchad. Et je ne peux pas te dire quelle peine j'ai endurée et à quel point je hais le régime de Omar el-Béchir.
À l'ombre d'une tente, une cinquantaine d'entre eux débattent d'une stratégie pour porter leurs revendications. Baptisé le cortège des marginaux, ils réclament que tous les responsables soient traduits devant la Cour pénale internationale. Walid Abdul Hassan est leur porte-parole.
Dans le monde entier, tout le monde connaît le cas du Darfour, le génocide ou encore les violences sexuelles. Tous les coupables, sans exception, doivent être traduits devant la justice. Et cela, car nous parlons aujourd'hui de reconstruire un nouveau Soudan qui réunira tous les Soudanais.
Sur le sit-in, paix, égalité et liberté clament ensemble les manifestants. Mais ces mots d'ordre ne pourront se réaliser sans répondre aux espoirs du Darfour.
Martin Roux à Khartoum pour France Culture. Une réforme contestée au Sénégal, deux mois après la réélection du président Macky Sall, les députés ont adopté hier la révision de la Constitution. Elle doit aboutir à un nouvel équilibre entre les pouvoirs via notamment la suppression du poste de Premier ministre, une mesure voulue par le président sénégalais qui va renforcer un peu plus le pouvoir exécutif, William Delesseux.
124 voix pour, 7 voix contre et 7 abstentions. Les députés ont largement adopté le texte de loi voulu par le président. Il s'agissait donc bien d'une formalité pour l'exécutif qui bénéficie de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Durant toute la journée, une centaine de parlementaires ont pris la parole. Tour à tour, ceux du camp présidentiel se sont succédés afin de défendre la réforme. Plus de premiers ministres, d'après eux, c'est plus d'efficacité dans l'application des politiques publiques. Ces députés, ils sont contredits par quelques rares figures de l'opposition. Pour eux, la réforme va renforcer de manière outrancière un président déjà doté de pouvoirs jugés exorbitants. Mais durant les 7 heures de débat, l'opposition minoritaire a été incapable de faire reporter l'adoption de la loi. Une fois le décret de promulgation signé par Macky Sall, toute l'architecture de la Constitution sera bouleversée. Par exemple, le gouvernement n'est plus responsable devant l'Assemblée, mais devant le président. Une telle modification constitutionnelle a déjà eu cours au Sénégal. En 1963 et en 1983, les présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf s'étaient passés d'un Premier ministre.
En France, les ministres de l'Environnement du G7 sont réunis jusqu'à demain à Metz. Une réunion préparatoire avant le G7 général prévu en juin à Biarritz. 33 listes pour les européennes, on vous en parlait hier. C'est désormais bouclé pour les prochaines élections. Et à 3 semaines du vote, c'était hier la journée de l'Europe. Un rendez-vous pour découvrir les institutions européennes à Bruxelles, la Commission, la Cour des comptes ou encore le Parlement européen où Johanna Hochstein a suivi la visite avec le public.
Ici, c'est la foule des grands jours, drapeau européen à la main. Jean-Paul, 11 ans, participe au scrutin spécialement organisé pour les plus jeunes.
J'ai deux petits, je peux les prendre avec.
Il a le choix entre plusieurs candidats.
Il y a Oscar qui veut avoir de l'argent des poches obligatoirement pour les enfants. Il y a aussi le candidat Thomas qui veut plus de sport à l'école. Alors c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir, pour votre avenir.
Je peux faire photo avec vous.
Plus loin, on fait la file pour se faire photographier avec les eurodéputés en campagne. Comme le belge Guy Verhofstadt, une des têtes de liste de la famille centriste, allié des candidats En Marche.
Voter pour un groupe qui sera renouvelé, certainement le nôtre, parce que nous croyons dans l'Union européenne.
Today.
Sur des écrans, une vidéo tourne en boucle. On y voit plusieurs femmes en train d'accoucher, des naissances qui sont toutes réelles. Le message, votez pour le futur de vos enfants. Jean Médouc, porte-parole de l'institution.
On a voulu, pour une fois, toucher les cœurs des gens et pas seulement les cerveaux. Ça marche très bien. En moins d'une semaine, il y a plus de 80 millions de citoyens qui ont regardé ces films sur les différents réseaux sociaux.
L'espoir ici, c'est que ces millions de vues se traduiront dans les urnes. En 2014, moins d'un Français sur deux a participé au scrutin européen.
Le reportage de Johanna Hochstein. Le temps aujourd'hui, plus sec et ensoleillé, sauf de la pointe normande à l'Île-de-France. Ailleurs, c'est plus dégagé, mais il faudra faire avec les fortes rafales de vent. Côté température, 15 à Marseille, 9 à Blois et 13 degrés à Rennes.